enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes là ce soir encore pour avancer un tout petit peu. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Vous savez, ces enseignements sont adressés individuellement à chacun d'entre nous, y compris le prédicateur. Et je ne suis pas venu pour parler à une assemblée, à une église, je suis venu parler à des individus, parce que Dieu parle à des individus, à des personnes. C'est pourquoi je ne touche pas des problèmes de doctrine, autre chose, parce que Jésus n'en a pas touché. Et je voudrais que nous puissions bien nous comprendre. Hier, nous avons vu, comme le pasteur Samuel l'a dit à la fin, l'approche qu'il y a dans le christianisme. Comment certains d'entre nous viennent à Dieu simplement avec la raison, l'intellect. Si aujourd'hui le christianisme moderne, si les chrétiens du 21e siècle sont si faibles, c'est à cause de ce problème-là. Hier, nous avons vu un gadarénien, un homme emprisonné, enfermé. Et nous avons vu qu'il a rencontré le Nazaréen, un homme consacré, un homme appartenant à Dieu. Les deux étaient remplis de deux présences. Le gadarénien était rempli de la présence de l'esprit mauvais. Et le Nazaréen était rempli de la présence de Dieu. Nous avons vu quand les deux se sont mis face à face, le démon qui était dans le gadarénien s'en est allé à cause de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit qui demeurait dans le Nazaréen. Donc, lorsque nous voyons cela, certains vont dire, ah, c'était au temps de Jésus, et ils étaient superstitieux, ils croyaient encore aux démons, ils n'avaient pas encore trouvé la psychanalyse de Freud et de tout le monde, ni la psychologie. Alors c'est pourquoi on osait dire que quelqu'un avait 2000 démons. Comment un homme peut-il avoir 2000 démons? C'est cette approche-là qui fait du mal aux chrétiens du 21e siècle. Et qui fait que ils n'arrivent pas à progresser. Bien-aimés frères et sœurs, quand je venais à Christ, je passais ma licence en économétrie qui venait d'arriver tout nouvellement en France. Les mathématiques, les statistiques appliquées à l'économie, nous étions avec les gens de X, les gens de toutes les grandes écoles de mathématiques. C'était une nouvelle branche qui venait d'arriver là. On nous a réunis ensemble. Quand c'est pendant cette période que je me suis converti à Christ, et jusqu'à ce que j'arrive au niveau du doctorat d'État, j'ai dit une chose à Dieu. Si mon intellect va me créer des problèmes dans le christianisme, je vais me décapiter volontairement. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas physiquement. Je décide de soumettre mon intellect, ma raison à la parole de Dieu et je l'ai fait dans ma chambre d'étudiant. J'ai posé la Bible et là je me suis placé. Et j'ai dit à Dieu que jamais ma raison ni mon intellect ne m'amène à m'opposer à ta parole. Parce que le plus grand intellectuel, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés frères, et je veux parler de tout cœur pour que nous puissions comprendre. Je me suis converti en France et pas en Afrique. Donc, personne ne peut me dire que j'ai un christianisme africain. Eh oui, et Dieu m'a fait cette grâce-là. C'est pourquoi Dieu va sauver Paul, parce qu'il savait que Paul avait un bagage intellectuel et il était capable de parler aux gens de son temps, les Grecs, les philosophes, les grands, parce qu'il était aussi intellectuel qu'eux. C'est pourquoi Dieu m'a converti en France. C'est difficile pour vous. Donc, du point de vue intellectuel, j'ai les bagages qu'il faut pour régner la parole de Dieu. J'ai tout ce qu'il faut, tous les diplômes qui peuvent me permettre, comme beaucoup d'entre vous, qui peuvent dire, ah oui, ce sont des histoires. J'ai ces mêmes diplômes-là qui me permettent de régner Dieu. Du point de vue assise sociale, quand j'ai travaillé, j'ai brassé des millions, des millions, des millions d'euros. Donc, un homme d'affaires qui a brassé des millions et des millions, des millions d'euros. Donc, je peux dire sur le plan social, j'avais toutes les raisons pour rejeter la Bible. Sur le plan intellectuel, j'avais toutes les raisons pour rejeter la Bible. Alors, mais pourquoi j'y tiens beaucoup à la Bible, à la parole de Dieu? Parce que ma rencontre avec Dieu, quand je l'ai comprise, n'est pas une rencontre intellectuelle ni rationnelle. La vie chrétienne est égale de façon absolue à la vie surnaturelle, à la vie de Dieu dans un homme. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas une culture ni une religion. Ceux qui l'ont expérimenté n'ont pas changé de culture, mais ont changé de vie. C'est différent. Et c'est pourquoi, malgré toutes les difficultés, les épreuves, ils marchaient avec Dieu. Nous sommes la seule génération qui n'avons pas eu les épreuves que les autres ont eues. Et nous sommes les plus infidèles. Nous sommes la seule génération qui n'avons pas vu la tête des chrétiens coupée, les femmes éventrées, bien que ça se passe dans plusieurs pays, sans les nommer. Mais pourquoi ces gens-là demeurent fermes? Je pose la question. S'ils avaient le christianisme que nous avons là, ils allaient tous régner Dieu. Parce qu'ils ont rencontré un Dieu réel. Ils ont rencontré un Dieu authentique. Ils ont rencontré, quand dans certains pays, on est prêt à vous couper les bras pour que vous régniez à Jésus, et cet enfant-là risque d'être régné. J'ai vécu la même chose quand je suis allé au village chez moi. Une grande réunion a été faite pour me régner, connaissant d'où je viens. Comment j'ai fait pour dire non et résister? La question est là. Si c'était une simple rencontre émotionnelle, si c'était une simple rencontre de conversion, comme on le dit, je ne serais pas là ici aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous ce soir. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas la vie d'un homme. Ce n'est pas la capacité. Regardons quelques passages. Nous allons voir deux jeunes gens d'abord qui ont rencontré le Christ. Et nous allons voir que ces deux jeunes gens-là, il y a toujours deux groupes. Un groupe qui accepte, l'autre groupe refuse. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 16, il est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc Matthieu 19, verset 16. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, ce jeune homme-là avait la vie biologique. Mais il voulait une autre vie. Il voulait un autre genre de vie. Et il sait que ce genre de vie n'est pas de la capacité de l'homme. C'est pourquoi il est allé s'adresser à Jésus. Il sait bien qu'on ne peut pas acheter la vie éternelle dans un supermarché. Et il avait une religion. Et sa religion ne pouvait pas lui donner la vie éternelle. C'est à ça que vous devez réfléchir. Tous les hommes ont des religions sur la terre. Pourquoi ce jeune homme qui a sa religion, quitte les gens de sa religion et s'en va s'adresser à Jésus, parce que la vie éternelle, le mot éternel, est lié à Dieu. Il n'a pas dit je vais la, comment faire pour avoir la vie humaine. Il dit la vie éternelle. Et il savait bien que le seul endroit pour avoir la vie éternelle, c'est en Dieu. Jésus l'a regardé. Ce jeune homme a été un très très grand combattant, un jeune homme très consacré, un jeune homme qui par ses efforts a eu tout. Alors il a pensé que la vie éternelle aussi pouvait être conquise par ses efforts, ses forces personnelles. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Il a cru cela. C'est pourquoi il dit, que faut-il faire? Comme les Anglais disent, how to. C'est la technique qui marche partout, how to be, how to reach, il n'y a pas de how. Le problème c'est ça. Nous voulons, nous sommes prêts à faire telle chose pour avoir telle chose. Nous sommes prêts à faire telle chose. Non, la vie éternelle ne fait rien. Parce qu'elle ne t'appartient pas, elle n'est pas au marché, ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Jésus dit, ok, tu veux, on voit que tu as été moulé dans l'école des comment. Alors, ok, on va aller, on va te suivre par un moment donné pour te montrer jusqu'au bout où ton raisonnement peut aller s'arrêter, où tu seras limité. Jésus l'a suivi dans son raisonnement. Il dit, ok, bon, tu veux avoir la vie éternelle. Je sais que tu es riche, je sais que tu as eu beaucoup de choses par tes propres efforts. Alors, tu ne dois pas mentir. Il a dit, Jésus, je ne mens pas. Moi, j'ai fait des efforts, je ne mens pas. Voici un jeune homme qui avait une vie morale exemplaire. Si ce jeune homme-là était aujourd'hui dans nos églises, tout le monde dirait que c'est le meilleur des chrétiens. Voici l'erreur que nous faisons. Tout le monde allait dire que ce jeune homme-là, il n'y a pas un chrétien, il est plus fidèle que le pasteur, alors qu'il n'a même pas la vie éternelle. Il n'a rien. Parce que notre approche de la vie chrétienne est rationnelle, très rationnelle. Elle n'est pas surnaturelle. Nous pensons que nous pouvons acquérir la vie éternelle par nous-mêmes. Et c'est ça que le jeune homme voulait. Quand Jésus a cité les commandements, les uns après les autres, au grand étonnement de Pierre, de Jean, de Jacques, de Thomas, de Philippe, qui étaient là, ils ont commencé à être complexés par le fait que ce jeune homme-là, qui n'était même pas un disciple de Jésus, avait une qualité de vie spirituelle supérieure à leur vie. Ils se sont dit, mais il va prendre notre place, sûrement. Ah, le prochain chef des apôtres, ça doit être lui. C'est sûr et certain que le prochain chef des apôtres, ce serait bien ce jeune homme-là, parce qu'il a obéi à tous les commandements. Pierre savait que dans les 10 commandements, il n'a pas pu obéir à 2 seulement, même pas 2. Jean savait ça. Chacun avait honte. Et voici un jeune homme. Les 9 commandements, il les a alliés. Un à un, il a dit, Jésus, ça ce n'est rien ça. Je sais me maîtriser moi. Je maîtrise mes émotions. Ma raison est claire. Jésus l'a regardé et la Bible dit, il l'a aimé. Jésus aime les gens. Mais ça ne veut pas dire que l'amour de Jésus me permet de faire ce que je veux. C'est ça l'erreur des chrétiens du 20e siècle. Ah, Dieu m'aime. Dieu t'aime. Mais si tu continues à vivre dans le péché, tu vas aller en enfer. L'amour de Dieu. Non. Faut lire la Bible. Faut pas lire autre livre là. Lis la Bible. Il n'y a pas 2 livres. Il y a un seul livre. Le livre de la vie, c'est le voilà. Ah oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son fils. Dieu a payé ce grand prix-là. Alors, si tu l'aimes en retour, tu dois dire à Dieu, tu as payé un si grand prix, je suis prêt aussi à payer ce prix-là pour t'obéir et marcher dans la vérité. Et à un moment donné, Jésus, sachant qu'il y a quelque chose qui manque dans ce jeune homme, et il sait bien que la vie éternelle, ce n'est pas une affaire du cerveau, c'est une affaire de cœur. Jésus a laissé la dernière question, l'affaire du cœur, en dernière position. Et il attaque le cœur maintenant avec tous les canons. Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Il a dit, non, je ne vends pas, je ne te suis pas, je m'en vais. Il veut la vie éternelle. Il veut la vie éternelle. Il pensait qu'il pouvait l'avoir comme ça, simplement. Et la Bible nous dit dans la suite de ce passage-là, au verset 25, les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Vous entendez maintenant? Jusqu'à présent, la doctrine des disciples a été changée, bouleversée. Leur doctrine a été sur le salut a été changée. Alors ils ont commencé à se poser la question. Dès ce moment-là, ils ont dit, ah, mais tiens, on avait une doctrine erronée. Alors ils ont dit à Jésus, puisque ce jeune homme-là a presque obéi à 9 commandements sur 10, il ne peut pas entrer dans le royaume, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Alors, Pierre a dit, mais ça n'est fini de nous. Qui donc peut être sauvé? Cette question, il faut la retourner, il faut la poser à qui de droit? Pas au pasteur, le pasteur ne peut rien dans ça. Qui peut donc être sauvé? Écoutez la réponse de Jésus, le verset 26. Il leur dit, aux hommes, au système humain, système philosophique, cela est impossible. Les systèmes religieux que vous avez mis en place, cela est impossible. Les systèmes sociologiques, cela est impossible. Les systèmes philosophiques, cela est impossible. Les systèmes de psychologie, c'est impossible. Tout ce qui est humain, c'est impossible que ça puisse sauver quelqu'un. Aux hommes, c'est impossible, c'est ça que ça veut dire. Tout ce qui est naturel ne peut pas sauver quelqu'un. Et il dit maintenant, cela, mais à Dieu, tout est possible. Ah, vous voyez frère, et tous les disciples étaient découragés. Parce que leur approche de la vie éternelle était aussi mauvaise, erronée que celle de ce jeune homme-là. Ils ont dit, mais Seigneur, en ce moment-là, alors nous avons tout quitté pour te suivre. Mais nous te suivons, on ne comprend plus rien. Mais tu nous as appelés et tu nous aimes, tu nous bénis. Dis oui, je vous bénis, je vous aime. Mais est-ce que vous m'avez posé la question de savoir si vous avez la vie éternelle? Ah non? Il dit alors, mais oui, c'est lui seul qui a eu le courage de me dire qu'il veut la vie éternelle. Et je lui ai dit comment il faut faire. Mais Pierre, m'as-tu posé la même question? Jamais, depuis que tu es avec moi. Jean, m'as-tu posé la même question? Non. Ah non, on te suit à l'église, on te suit à la synagogue. Oui, mais vous me suivez. Mais vous m'avez jamais posé la question de savoir qui peut avoir la vie éternelle et qui veut avoir la vie éternelle. Qui donc peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus dit, si vous attendez que les hommes vous sauvent, que les systèmes religieux vous sauvent, si vous attendez que les dénominations vous sauvent, si vous attendez que les systèmes philosophiques vous sauvent, vous êtes dans l'erreur, car cela leur est impossible. Mais à Dieu, si vous adressez à Dieu, si vous tournez vers Dieu, si c'est à Dieu que vous demandez, tout est possible. Ça, c'est le premier jeune homme qui s'en est retourné sans avoir la vie éternelle. Peut-être plus tard, il est revenu, on ne sait pas. Certains ont dit qu'il est venu. Je n'étais pas là-bas, je ne suis pas au courant. Donc, ok. Je m'arrête là où la Bible s'arrête. Ok. Un deuxième jeune homme. Lui, il s'appelle Saul de Tarse. Un jeune homme intellectuel, un docteur, très fort dans toutes les langues. Il comprend le romain, je ne sais pas si c'est le latin à l'époque, le grec, l'hébreu. Il comprend les langues. Un des grands intellectuels de tous les temps, jusqu'aujourd'hui. Regardez les lettres qu'il a écrites là, personne n'a pu les modifier, tellement il avait une intelligence supérieure. Mais ce jeune homme-là, qui était comme le premier, donc aussi sûr de lui, la Bible dit qu'un jour on tuait un autre jeune homme appelé Étienne, et ce jeune homme-là a donné son accord pour qu'on tue Étienne. Ça se trouve dans Actes 7. Acte 7, on ne va pas le lire. Et on a déposé les habits d'Étienne au pied de ce jeune homme-là qui s'appelle Saul de Tarse. Et ce jeune homme-là était rempli de fureur et de colère contre le nouveau système, c'est-à-dire le christianisme. Mais regardez ce jeune homme-là. Il n'était pas aussi doux. Il n'était pas aussi doux que le premier. Le premier jeune homme était très doux. Il aime ses parents, il honore ses parents, il ne fait pas du mal, il ne vole pas. Mais Paul n'était pas comme cela. Paul faisait tuer les gens, il était violent, il était méchant. Mais regardez-le. Il n'a jamais vu Jésus physiquement. Il n'a jamais rencontré Jésus physiquement. Jamais. Il ne le connaît même pas. Il entend seulement son nom. Lui, qui ne voulait pas la vie éternelle, mais qui était un religieux dans son cœur, il croyait qu'il servait Dieu. Dieu le rencontre sur la route de Damas. Regardez le changement qu'il y a, frères et sœurs. Saul de Tarse n'a pas été amélioré. C'est pourquoi il a osé dire aux Corinthiens plus tard, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas une doctrine, hein. Il sait d'où il vient. Il dit les choses anciennes sont passées. Paul sait qu'il était un meurtrier. Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Si on aligne les pécheurs, je suis la tête des pécheurs. Si on aligne les méchants, je suis la tête des méchants. Mais quand j'ai rencontré Christ, quand j'ai eu la vie éternelle, qui est la vie surnaturelle, quand j'ai eu cette vie-là, les choses anciennes sont passées. Et le verset 18, il dit, cela vient de Dieu. Textuellement, comme Jésus disait, cela vient de Dieu. Paul dit, la vie éternelle, la vie nouvelle, la nouvelle création là, c'est pas un produit humain. Cela vient de Dieu. Il n'a pas dit, je suis converti. Paul dit, je suis une nouvelle création. À quel niveau? Pas au niveau de son corps. Le même Paul dit, plus tard aux Galates, deux églises charnelles. Aux Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, aux Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, frères et sœurs, cette vérité de Paul-là, ce deuxième jeune homme-là, est-ce que je peux m'asseoir ce soir? Est-ce que vous pouvez vous asseoir ce soir pour vous arrêter et regarder? Comme il a dit aux Corinthiens, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je n'ai pas dit de réciter le verset. Je dis, est-ce que je peux m'asseoir, examiner ma vie à la lueur de la Bible et regarder ma vie, mon ancienne vie avant d'être chrétien et ma vie aujourd'hui de chrétien. Est-ce que je peux dire honnêtement, je suis une nouvelle création? La question est là ce soir. Et quand il a écrit aux Corinthiens, l'église charnelle, qui ne connaissait pas Dieu selon la vie surnaturelle, qui avait ramené le christianisme au niveau naturel. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, il dit, je m'étonne de votre manière de vivre. C'est la seule église à qui il a parlé de cette manière. Mais quand il écrivait aux Éphésiens, il n'a jamais parlé de la vie charnelle. Quand il a écrit aux Colossiens, il a dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand il a écrit aux Thessaloniciens, toutes les autres églises étaient spirituelles. Mais l'église de Corinthe et de Galate étaient des églises très charnelles. C'est à eux qu'il dit. Il dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, si vous voulez, verset 11. Je préfère vous le lire. 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardez, frère. Il dit, et même un peu plus loin, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Vous voyez bien? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais, voici la différence. Mais, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, Paul dit, ces hommes qui étaient impudiques, efféminés, ces hommes qui étaient adultères, voleurs, ça c'est leur situation naturelle, ça c'est la chair. Paul dit maintenant, le jour que vous avez rencontré Jésus-Christ, quand l'Esprit est venu, l'Esprit a fait une transformation qu'on appelle une métamorphose. Il y a trois mots grecs qui nous montrent la vie chrétienne, les trois dimensions de la vie chrétienne. C'est le premier mot en français qui veut dire repentance. En grec, c'est métanoïa. Grec, métanoïa, repentance. Le deuxième mot, c'est renouvellement. Après la repentance, il faut avoir le renouvellement. Et le deuxième mot, renouvellement, c'est anakainos. Et le troisième mot fort, c'est maintenant transformation qui veut dire métamorphose. Le chrétien doit passer de la métanoïa à anakainos et de anakainos à métamorphose. Un chrétien qui reste à la repentance n'y va pas loin du tout. La repentance n'est que la porte d'entrée. La repentance n'est que la porte d'entrée du royaume. Quand vous rentrez là-dedans dans le royaume, alors vous allez rencontrer le anakainos, le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. Et quand vous avez rencontré le anakainos, maintenant, vous serez transformé. 2 Corinthiens 3, 18 dit, transformé de gloire en gloire, à l'image de Christ, par le Saint-Esprit, ça c'est le métamorpho. Trois dimensions de la vie chrétienne. Repentance, je donne dos à mon ancienne vie, ce n'est que le commencement, mais mon intelligence n'est pas renouvelée, je continue à raisonner comme les gens du monde, comme les païens, et en marchant avec Dieu, en prenant sa parole, je suis renouvelé. Et quand je suis renouvelé, mon être intérieur est transformé. Et c'est en ce moment-là que je commence à vivre, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. La paix, la joie, l'amour. 1 Corinthiens 13, 4, l'amour excuse tout, croit tout, pardonne tout. Ce n'est pas ceux qui se sont repentis qui peuvent vivre 1 Corinthiens 13. Ce sont ceux qui sont arrivés à métamorpho. C'est pourquoi c'est difficile de pardonner à ta belle-mère. C'est ça. Tu fais des efforts. Oui, mais tu sais, elle a gâché ma vie. Elle a gâché ma vie. Et alors, elle a gâché ta vie. Tu n'as pas gâché la vie de Jésus. Mais Jésus t'a. Oui. C'est difficile de pardonner. Parce que ceux qui sont en repentance ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Malgré les bonnes volontés, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, revenons encore. J'ai fini avec les deux, donc le jeune homme riche et Saul de Tarse. Allons dans Jean 3. Voyons maintenant, pas deux jeunes gens, nous allons voir deux docteurs face à face. J'aime faire des rencontres, j'aime faire des comparaisons comme cela. On a vu hier le Gadarénien et le Nazaréen. Ce soir, on a vu le jeune homme, le premier jeune homme et le deuxième jeune homme. Nous allons voir maintenant deux docteurs face à face. Dans Jean 3. Jean 3. Deux docteurs. Et nous allons voir quelle est leur connaissance. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des juifs. Vous savez que Nicodème veut dire vainqueur du peuple. Il avait la victoire sur le peuple. Il régnait sur le peuple parce qu'il était un docteur. Ça veut dire Nicodème, vainqueur du peuple. Mais il n'est pas vainqueur de sa propre vie. C'est malheureux. Il est vainqueur du peuple, il n'est pas vainqueur du péché. Il est vainqueur du peuple, il n'est pas vainqueur de la maladie. Il est vainqueur du peuple, il n'est pas vainqueur des démons. Il est un vainqueur, il règne sur le peuple, mais il ne règne pas sur le péché dans sa vie. Ça, c'est terrible. C'est dommage. Et il est un enseignant. Il veut enseigner les gens. Comment ça va marcher? Un chef des Juifs nommé Nicodème, qui vint auprès de Jésus la nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons, vous voyez ce qu'il déclare, nous sommes arrivés à la conclusion. Nous nous sommes réunis en cachette. Le Sanhédrin s'est réuni. Il fait partie de ce Sanhédrin-là. Nous avons tiré la conclusion. Il est le porte-parole secret du Sanhédrin. Nous savons, il n'a pas dit je sais, nous savons qui, tous les Sanhédrin, nous le savons, que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'un docteur venu de Dieu? Jésus va lui répondre que tu es un docteur aussi. Regardons la réponse de Jésus avant de revenir au verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Il dit à Jésus, tu es un docteur venu de Dieu. Jésus lui répond, mais toi, tu es un docteur aussi? Tu n'es même pas un docteur, toi tu es le docteur d'Israël. Alors quelle est la différence des deux docteurs? Voici un homme qui est docteur de toute une nation, qui enseigne toute une nation pour connaître Dieu. Il s'appelle Nicodème. Jésus dit, il n'est pas dit tu es un des docteurs, il dit tu es le docteur d'Israël. C'est toi celui qui est reconnu. Et qu'est-ce que tu enseignes? Qu'enseignes-tu? Ah, il est embarrassé. Qu'est-ce que tu enseignes aux gens, Nicodème? Nicodème dit, ah. Il dit, mais c'est pourquoi je suis venu, et nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu, et quelle est la caractéristique d'un docteur venu de Dieu? Nicodème le dit. Retournons au verset 2. Nicodème dit, la caractéristique, comment, à quoi on reconnaît un docteur qui vient de Dieu? Un docteur qui est connecté avec Dieu. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, un docteur venu de Dieu est caractérisé par quoi? Il vient de Dieu, sa source est Dieu, Dieu est avec lui, et troisièmement, il fait des miracles, des produits et tout. Aujourd'hui, nous avons, quand nous parlons des cinq ministères, nous parlons du ministère d'enseignant, nous avons réduit ça à un enseignant de concepts intellectuels. Jamais. Le docteur de la Bible est cinq ministères, ce n'est pas un enseignant des concepts intellectuels et bibliques. Ah non, c'est trop ça. Donc vous voulez dire que n'importe quel docteur qui est sorti d'une faculté de théologie dans les pays où quelqu'un n'est pas converti, on fait le doctorat en théologie sans être converti. Vous voulez penser que c'est ça que Jésus parle, Paul parle dans Éphésiens 4:11? Soyons raisonnables là. Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Et par les dons du Saint-Esprit, il les a qualifiés. Et vous allez me dire qu'aujourd'hui, on a descendu le concept, le mot docteur au niveau des théologiens. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans les facultés, dans plusieurs pays dont je ne vais pas citer le nom, on peut être docteur en théologie sans être né de nouveau. Vous le savez. Alors comment vous pouvez diminuer le doctorat selon Dieu à ce niveau d'un simple enseignant, un concepteur? Ça, vous rabaissez la Bible. Ça, c'est un scandale. Nicodème dit, un docteur qui vient de Dieu, il enseigne, il moule la vie des gens, il transforme la vie des gens, parce que le Saint-Esprit agit avec lui, et il y a des signes, des miracles avec lui. C'est ça le docteur venu de Dieu. Mais quand Jésus a dit, toi tu es le docteur d'Israël, il n'a rien ajouté. Tu n'es qu'un simple docteur d'Israël. Et tu ne sais même pas la chose principale, qu'il y a un royaume qui doit venir. Regardons, retournons au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème dit, comment un homme, un docteur, qui enseigne Ézéchiel 36, Nicodème connaît Ézéchiel 36, il vous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il ôtera votre cœur de pierre, il vous donnera un cœur de chair, et il mettra son esprit en vous. Et il ferait de telle manière que vous puissiez obéir au commandement de Dieu. C'est de ça que Jésus parle là. Il dit, mais tu enseignes ça tous les jours et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu enseignes Ézéchiel 36. Nicodème a arrêté. Jésus lui dit, mais comment? Je ne comprends pas. Tu enseignes tout un peuple. Mais toi, tu les conduis, tu es en train de les induire en erreur. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas voir le royaume, frère. Je te pose la question là. Je n'ai pas dit que tu n'es pas converti, hein, mais je te pose la question, es-tu dans le royaume? Les conditions du royaume sont là. Il ne faut pas nous se flatter. La Bible dit, personne ne peut voir, même voir, ça veut dire quoi? Comprendre les principes du royaume s'il n'est pas né de nouveau. Nous avons plein de gens qui sont des convertis, qui remplissent les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes nés de nouveau et quelqu'un d'entre vous va prendre la femme de son père et couche avec la femme de son père. Et vous voulez que je vous suive dans votre doctrine en disant que Dieu est bon, Dieu est amour. Il dit, mais cet homme-là, je le livre à Satan. Ou bien Paul, je vous pose la question. Vous dites que Dieu est bon. Vous dites que Jésus est mort pour vos péchés. Mais un homme, il a beaucoup de filles dans la ville. Il ne part pas chercher une fille. Il ne commet pas la fornication. Mais il va plus loin que la fornication. Ce n'est même pas de l'adultère. Il laisse les femmes de la ville. Il laisse les jeunes filles. Il part prendre la femme avec laquelle son père dort tous les jours. Et il dort avec la même femme. Et vous dites que vous êtes converti. Vous êtes né de nouveau. Paul dit, je te livre à Satan. Pour que ton cœur périsse et que et ton esprit soit vivifié. Ne me racontez pas autre chose là. Je ne me soumettrai pas à vous. Je refuse. Quand je prêche, j'ai peur d'une seule personne, le Seigneur qui est avec moi là. Qui est en moi, qui est avec moi là. C'est lui seul que je crains. Je ne crains personne. Vous n'allez pas me dire le contraire. Il faut changer, frère. Il faut prendre la décision de changer. Vous allez vous retrouver un jour, après votre mort, on va venir vous amener ici. On va faire un bon culte. Quand vous allez au ciel, Dieu dit, je ne vous connais pas. Si le pasteur Samuel t'a connu, moi je ne te connais pas. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'allez-vous dire en ce moment-là? C'est trop tard. L'homme riche qui est monté, il a dit à Abraham, je souffre ici, je souffre dans le feu. Abraham dit, c'est trop tard. Abraham dit, c'est trop tard. La nouvelle naissance est la condition sine qua non. Condition suffisante et nécessaire. Condition nécessaire et suffisante pour entrer dans le royaume des cieux. Pas la conversion. Pas venir à l'église, pas membre d'église. Non, tu peux avoir une carte d'église. Tu n'as pas une carte pour le ciel. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle et elle est gratuite. Dieu ne vous demande pas autre chose, il ne vous demande pas votre argent, ni vos diplômes, il vous demande votre consentement. Est-ce que je veux cette vie surnaturelle là? Est-ce que je veux changer? C'est ça seulement que Dieu vous demande. C'est pourquoi si on refuse, là il est intraitable. Quand vous allez le voir là-haut, il n'a plus les yeux blancs, il a les yeux rouges, comme le feu. Ah oui. Ne nous flattons pas, ne disons pas, on va à l'église, vous savez, on va à l'église, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Il y a problème. Il ne dit pas, il n'y a pas de problème, il y a problème. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Mais Nicodème, regardez tout un docteur qui enseigne tout un pays, qui s'assoit, qui dit, sa mère est morte il y a 10 ans, il dit, faut-il rentrer dans le ventre de ma mère et sortir? Mais Jésus dit, ouais, un docteur comme ça, pied plat comme ça. Ça, c'est quel docteur, ça? Comment ce docteur-là peut amener un peuple à connaître Dieu? Comment il peut l'amener? Comment peut-il amener le peuple à connaître le vrai Dieu? Il ne peut pas. Jésus, vous voyez là, Nicodème était, il était là. Jésus dit, écoute-moi, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Il dit, ce qui est, verset 6, il dit, ce qui est né de la chair demeure toujours chair. Ce qui est né de l'esprit devient esprit. Et celui qui est né de l'esprit, il est libre comme le vent souffle. Le vent souffle et il va à gauche, à droite. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Mais on voit son effet. Donc la nouvelle naissance, c'est comme ça. Quand vous êtes né de nouveau, personne ne peut nier que vous êtes né de nouveau. Tout le monde le sait. Comme on voit les effets du vent dans le monde là. Quand le vent passe ici, il renverse tout, ou bien il bouleverse tout, ou bien il fait changer les choses. La nouvelle naissance est comme ça. Si vous êtes né de nouveau, quand vous rentrez dans la maison de votre... Si vous êtes une femme, vous partez à la maison, votre mari sait que vous êtes né de nouveau. Il ne comprend pas les termes théologiques, mais il sait que vous êtes né de nouveau. Il voit un changement en vous. Si vous êtes né de nouveau, messieurs, écoutez. Écoutez, frère. Un homme qui est alcoolique, qui ne peut... On a tout fait. On l'a amené à l'hôpital pour le désintoxiquer. On a tout fait. Mais il rencontre Christ. Il est né de nouveau, il rentre à la maison sobre. Il n'a même plus envie de boire. C'est là la femme sait que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas une conversion. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et dit, je mets en vous mon esprit pour faire de telle manière que vous puissiez obéir à mes commandements. Ce n'est plus par un effort qu'on obéit aux commandements de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui est en nous. On ne serre plus la dent. Ah, oui, moi, j'aimais boire, mais maintenant, je suis converti, j'ai envie de boire, mais je serre les dents, j'ai pas envie de boire, non. Oh, Seigneur, tu vois, aide-moi, j'ai pas envie de boire, non. Tu n'as plus envie de boire, l'envie de boire est finie. C'est une chose passée. On ne naît pas de nouveau par étape. On est de nouveau une seule fois. On est transformé maintenant d'étape en étape. C'est pourquoi on dit transformé de gloire en gloire. Mais pas la nouvelle naissance. On ne naît pas de gloire en gloire. On naît une seule fois. Et on est transformé, renouvelé au fur et à mesure. Alors, c'est ça la vie surnaturelle. La vie surnaturelle, la vie chrétienne, c'est la vie surnaturelle. Et Nicodème est embarrassé. Il ne comprend plus rien. Et Jésus de lui dit, Jésus a continué à enfoncer le clou. Il dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez bien? Les gens du royaume, quiconque est né dans le royaume de Dieu sait et il a vu. Il sait et il voit. Mais et toi, il dit à Nicodème, et toi, tu vois quoi? Tu sais quoi? Rien. Tu ne vois rien. Nous savons et nous avons vu. Et il continue, et il dit ceci au verset 12. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, vous voyez bien, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, il parle, le royaume là, le royaume est sur la terre. Maintenant, il dit, je vous ai parlé des choses terrestres, comment naître de nouveau? Si tu ne crois pas à ça, quand je vais te parler des choses célestes, comment tu vas croire? C'est pourquoi, frère, quand on dit que Dieu fait des miracles, les gens s'arrêtent de dire, mais comment Dieu peut faire des miracles? C'est normal que tu dis comment Dieu fait des miracles, parce que tu n'es pas dans le royaume, tu ne connais pas les principes du royaume. C'est pourquoi ton raisonnement refuse le miracle. Ton raisonnement refuse le miracle. Ou encore, tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence. Tu es un bébé, un chrétien charnel, tu n'es pas renouvelé, tu n'es pas transformé. Alors quand on dit que Dieu guérit, tu ne peux pas croire à ça. Quand on dit que Dieu transforme le cœur d'un homme, tu ne peux pas croire à ça. Parce que tu ne l'as pas expérimenté toi-même. Tu ne l'as pas expérimenté. Donc, tu ne peux pas vivre. C'est important que nous comprenions ce que Dieu nous dit. La vie chrétienne est égale à la vie surnaturelle. La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire, ni une vie normale. C'est une vie surnaturelle. C'est la vie de Dieu en nous. Dieu sait que vous et moi, personne ne peut vivre la vie chrétienne. C'est comme si moi, un être humain, je demande à une fourmi de vivre la vie d'un homme. Est-ce qu'une fourmi peut vivre la vie d'un homme? Alors, mais comment le grand Dieu va demander à un être humain comme vous et moi, né dans le péché, de vivre la vie éternelle, la vie abondante, la vie céleste, sans nous donner les moyens de le faire? Mais si moi, je peux entrer dans une fourmi, si je peux entrer dans une fourmi, la fourmi vivra la vie humaine par quoi? Par moi qui vis en lui. C'est ça que Dieu a fait. Dieu me dit de vivre la vie divine. Il dit, je suis participant de la vie, la nature divine, parce qu'il est venu vivre en moi. Et en ce moment-là, il me fait vivre dans la victoire. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui produit. C'est pourquoi il dit que Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
Et quand Dieu produit ça maintenant, il vous demande de travailler à votre salut. Si Dieu ne produit rien, si vous voulez travailler à votre salut, vous allez vous effondrer, vous allez être épuisé, vous ne pourrez rien faire. Mais le Dieu qui est en vous, vous aide, il produit le vouloir et le faire en vous selon son bon plaisir. Et avec le vouloir et le faire, je travaille maintenant à mon salut. Ça veut dire que je continue à évoluer dans le salut par le fait que Dieu habite en moi et il produit le vouloir et le faire à travers moi. Si je ne comprends pas ces principes élémentaires-là, c'est tout un problème. Je vais lutter, je vais faire beaucoup de choses et je me rendrai compte que ça ne va pas. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, du moins, c'est le troisième exemple pour terminer ce soir. Je voulais qu'on s'arrête un peu pour faire le bilan. Chaque année, les entreprises font leur bilan. Les hommes font leur bilan. Nous devons nous arrêter pour faire notre bilan spirituel. Il ne faut pas partir comme ça pour dire oh, « je suis sauvé, c'est fini ». Ce n'est pas fini. Tu dois regarder. Même quand tu conduis la voiture, tu t'arrêtes, tu regardes, s'il y a de l'huile. Si l'essence est là, tu regardes le tableau de bord. Si ça ne va pas, pourquoi y a le tableau de bord signale un rouge? Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le moteur. Dans ta vie, quelque chose ne va pas. Tu ne t'arrêtes pas, tu dis, tu continues. Tu vas brûler le moteur. Un moment donné, le moteur s'arrête. Tout le moteur craque. La vie chrétienne. C'est cela, frère. Je vous ai dit, pendant 15 ans, je me suis promené dans les continents du monde pour voir les chrétiens. Les 15 premières années de ma vie chrétienne, ça a été un voyage partout. J'ai fouillé les États-Unis de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et j'ai poursuivi les grands hommes de Dieu. Je suis allé au Brésil, je suis allé en Inde, je suis allé en Angleterre. J'ai cherché, dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie chrétienne. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je croyais que les hommes de Dieu avaient une solution. Je suis allé et au fur et à mesure que j'allais, j'apprenais des scandales. Tous ces hommes qu'on voit à la télévision qui font les grandes choses, j'apprenais des scandales. Et une fois, je suis arrivé au Texas. Il y a un grand homme de Dieu qui m'avait écrit. Il m'avait écrit dans les années il y a 15 ans. Il m'avait écrit, il m'a dit, il m'envoie ses documents mensuels. Je l'ai lu, mais je vois, faut que je vois cet homme-là. Quand j'arrive, je prends le taxi à l'aéroport de Dallas. Et je demande au taximan de me conduire dans l'église, cet homme-là. Ah, le taximan qui était un non-chrétien, c'était un Pakistanais. Il me regarde, il dit, ah, vous voulez aller là-bas? Il dit, oui, oui. Et il dit, mais cet homme-là, dans quelques jours, on va l'arrêter, on va le mettre en prison pour 20 ans. Il dit, ah non, mon héros va aller en prison 20 ans? Il dit, oui. Tout s'est effondré dans ma vie. Quand il m'a raconté, cet homme qui n'était pas chrétien, il m'a raconté. Alors, mais j'ai dit, mais comment des gens peuvent s'asseoir faire tant de fraudes spirituelles et ils n'ont aucune crainte de Dieu? Mais j'étais choqué. Comment un homme même raisonnable, même s'il n'est pas chrétien, ose monter des choses? J'étais abattu. J'ai changé, j'ai dit au taximan, bon, amène-moi là où tu veux. Non, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah, lui, il connaît, bon, lui, il n'est pas chrétien, mais il connaît un pasteur, là. Il n'a pas une grande église, mais il semble être honnête. Il dit, bon, dépose-moi, là. On m'a déposé, je suis resté là-bas. À la fin de mon séjour, j'ai pris mon avion et je suis reparti. Frère, je vous parle parce que j'ai beaucoup tourné. J'ai tourné pour chercher la victoire. J'ai cherché la victoire. Heureusement que Dieu donne à chaque homme une femme sage. Ma femme m'a dit, non, elle m'a dit, il dit, mais tu as beaucoup voyagé, tu as dépensé de l'argent. Est-ce que Dieu n'est pas au Burkina Faso? Vous voyez la logique des femmes? La bonne histoire des femmes, c'est ça. Elle me dit, est-ce que Dieu n'est pas au Burkina Faso? Il dit, oh, mais tu ne comprends pas toi. Moi, ce que je veux, c'est l'onction. Et toi, une femme, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que l'onction. Tu comprends pas, tu sais, moi je veux avoir l'onction. Et Mais quand elle a parlé, quand même, j'ai été touché. Comme l'orgueil masculin, c'est ça le problème des hommes. Les hommes sont très orgueilleux vis-à-vis de leur femme. Il n'y a pas cet homme-là qui n'est pas orgueilleux vis-à-vis de sa femme. Il n'y en a pas. Qui lève la main. Quand la femme dit quelque chose. Ah bon? Hé! Où es-tu? Viens, il a levé la main. Il a osé lever la main. Ah, ok. Ok. Elle a dit que c'est faux, hein? Ok. Il ne faut plus lever ta main, elle est derrière. C'est comme une femme qui allait à l'église régulièrement, elle allait à l'église. Chaque fois qu'on dit de témoigner, elle témoigne. Elle s'élève. Oh, Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça dans ma vie. Et son mari n'était pas converti. Quand les gens voyaient son mari, mais tu as une excellente femme, hein? Mais tout le temps, elle témoigne. Dieu fait les grandes choses chez vous. Et un jour, l'homme est venu en cachette, s'est caché. Il s'est assis au fond. Et quand le temps de témoigner est arrivé, on dit, qui veut témoigner? La femme a levé la main. Et au moment où elle s'avançait, l'homme s'est assis derrière, il a fait... Quand elle s'est tournée, elle a vu son mari, elle est partie s'asseoir tranquillement. Elle est partie s'asseoir parce qu'elle sait que son mari la connaît, oui ou non. Donc, comme ma femme me connaît, elle a dit, Dieu est ici, au Burkina Faso, reste là. Mais je me suis levé un jour à 4h du matin, 5h, aller dans le coin de notre salon, et je me suis agenouillé là. Et j'ai dit à Dieu, ma femme a dit que tu es ici. C'est pas moi, hein? Moi je crois que tu es en Amérique. Moi je crois que tu es en Angleterre. Mais ma femme dit que tu es ici. Est-ce vrai? Là, dans le petit coin de, avec la bibliothèque où il y avait les livres là, dans le petit coin là, la présence de Dieu est descendue fortement. J'ai dit, mais j'ai perdu de l'argent et des 10 ans pour rien, alors que Dieu est ici. Dieu est là à ma portée. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'aime raconter mes faiblesses. J'aime raconter mes failles, mes échecs. Je n'aime pas cacher ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous dire, je ne suis pas un homme parfait, loin de là. Je vous dis pour que vous sachiez que même dans votre faiblesse, vous pouvez aller à Dieu. Parfois, c'est avec des larmes que je partais à Dieu, dans mes échecs. J'ai dit à Dieu clairement, je viens devant l'église, je dis, oh, le pasteur, j'ai échoué. Les chrétiens me regardaient, oui, un pasteur n'échoue pas. Il dit, non, non, ici, j'ai fait une faute, je demande pardon. Et ça a été quelque chose de très fort pour moi, ça m'a aidé à franchir le visage des gens, de ne pas avoir peur, de confesser mes péchés devant les autres. Ça m'a sorti, ça m'a fortifié et ça m'a donné de pouvoir vaincre mes péchés. Quand je confesse un péché, je dois le vaincre. Je ne dois plus revenir deux fois pour dire que j'ai péché encore. Donc je me livre. Donc frère, c'est ça qui se passe. La vie chrétienne est une vie surnaturelle, s'il vous plaît. Ce n'est pas une vie naturelle. C'est pourquoi Dieu dit à Zorobabel, il dit Zorobabel, cette montagne que tu vois là, dans Zacharie 4, il dit cette montagne que tu vois là, ce n'est pas par la puissance humaine, ni par la force mentale qu'elle peut bouger. Cette montagne ne bouge que par mon esprit, dit l'Éternel. N'essaie pas de mouvoir cette montagne-là par ta force. N'essaie pas de la bouger par ta puissance. Compte sur mon esprit seulement et cette montagne va se mouvoir. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas, non, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zorobabel était décidé, il venait d'arriver de Babylone. Lui, avec Josué, le souverain sacrificateur, et avec les prophètes et tous les gouverneurs. Mais il voulait agir. Mais Dieu dit non, Zorobabel, c'est pas comme cela. Compte sur mon esprit. Si tu comptes sur mon esprit, alors mon esprit te guidera. Et ma grâce va t'accompagner. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce temps. Et je crois que Dieu veut nous aider aujourd'hui. Parce que nous allons prier à la fin. Nous allons prier pour parler à Dieu vraiment de ce que nous vivons dans la réalité. Enlever toutes sortes de choses pour que nous n'allions pas... Et un deuxième exemple pour terminer, c'est le cas de Jacob. Qui est Jacob? Vous le savez? C'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Donc, cet homme est né dans une famille correcte, dans une famille spirituelle, dans une famille bénie. Parfois, c'est l'erreur.
N'oubliez pas que si Jacob est le petit-fils d'Abraham, il n'est pas le petit-fils de Dieu, car Dieu n'est pas grand-père. Dieu est père seulement, il n'est pas grand-père. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu veut que vous et vos enfants, vous soyez ses fils à lui. Mais Jacob est né dans une bonne situation, une atmosphère spirituelle correcte, parfaite, un homme de foi. Son père, son grand-père Abraham et Isaac, un autre homme de foi, est le fruit de la foi. Mais on s'attend à ce que Jacob soit quelqu'un de parfait. Non. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie charnelle. La vie chrétienne n'est pas charnelle. Donc on voit l'exemple d'Abraham, donc de Jacob avec fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. On le voit. Il est né avec tous les défauts, un escroc, un voleur, un trompeur et tout. Et les gens sont étonnés, ils disent, ah, mais le fils du pasteur fait ça. Le fils du pasteur, tant qu'il n'a pas rencontré Dieu, il n'est que le fils du pasteur. Il n'est pas fils de Dieu. Et parfois, les chrétiens tombent dans cette erreur-là, de critiquer. Non, mais le fils du pasteur, il est fils. Mais Jacob était fils du pasteur. Son grand-père était pasteur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle. Il a reçu la vie naturelle d'Isaac. Il a reçu la vie naturelle d'Abraham. Mais la vie spirituelle est communiquée par Dieu et Dieu lui seul. C'est ça qui fait que les gens ils critiquent les gens, ils commettent des péchés les uns contre les autres en critiquant les gens. Mais ah, mais l'enfant de l'ancien, c'est le fils de l'ancien de l'église là. Regarde comment il vit. Mais il est fils de l'ancien. Il n'est pas ancien lui-même. C'est une erreur monumentale que les chrétiens commettent. Jacob était là. Il connaît tous les cantiques d'Abraham et d'Isaac. Il connaît toute la vie d'Abraham et d'Isaac. Il connaît, ils ont raconté, Abraham a raconté comment il a vécu avec Dieu. Isaac a raconté comment son papa les a appris à marcher selon la foi. Mais Jacob a écouté ça d'une oreille, ça sortait là. Il se levait, il escroquait les gens. Il dit, bon, ça c'est votre affaire. C'est cela que nous devons comprendre, que la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Sinon, Jacob aurait dû naître un enfant parfait. Il n'était pas parfait. Il avait ses failles, ses faiblesses. Il faut qu'il rencontre Dieu. Il a tellement roulé tout le monde. Il a roulé son père, sa mère, il a roulé son grand frère, il a roulé tout le monde. Et maintenant, un jour, la Bible dit dans Genèse 32, pour écouter notre prédication, dans Genèse 32, la Bible dit qu'un jour, après avoir roulé tout le monde, Jacob s'est trouvé le dos contre le mur. Tôt ou tard, si vous ne laissez pas Dieu vous toucher au temps favorable dans la maison de votre père, Dieu vous touchera quelque part quand vous aurez le dos contre le mur. Ah, frère, il vous tiendra là-bas, il va vous coller le dos contre le mur, il va vous dire, règle ta vie. Mets ta vie en ordre maintenant. C'est ça qui est arrivé à Jacob. Quand Jacob était prospère, Jacob a été béni, il est parti voir son oncle là-bas, il a grandi là-bas, il a eu deux femmes, même des maîtresses et tout ce qu'on veut, il a eu de l'argent, de l'or, il a eu tout ce qu'on veut, et Jacob retournait dans son pays. Quand il retourne dans son pays, il a entendu la mauvaise nouvelle. Son frère Ésaü est en train de venir avec 400 hommes, armés, pour faire quoi? Pour le tuer. Parce que Ésaü a dit, je te tuerai. La peur a saisi Jacob. Même dans ce temps-là, il a voulu encore manipuler son frère. Il a envoyé des biens à son frère. Il a envoyé ses femmes. Il a envoyé les enfants. Il a envoyé tout le monde pour corrompre son frère Ésaü. Malgré cela, Ésaü continuait d'avancer. Jacob s'est rendu compte que si Dieu n'intervient pas, ça n'est fini de lui. Sa vie s'est terminée là. Il sera enterré là, tout juste au torrent de Jabbok là. Et la Bible dit dans Genèse 32 donc, verset 24, Jacob demeura seul. Vous entendez? Jacob demeura seul. Il y a des moments dans votre vie où vous devez demeurer seul pour rencontrer Dieu. Personne ne peut vous aider. Parfois, nous avons fait l'erreur en tant que pasteur. Nous avons voulu aider les chrétiens. On leur a fait beaucoup de mal. Il y a des chrétiens qu'il faut laisser qu'ils rencontrent Dieu.
tant qu'ils ne rencontrent pas Dieu, ils vont raconter des histoires aux pasteurs, ils vont vouloir qu'on les dorlote, Non, il faut arrêter ça. Jacob est là maintenant. Il faut prendre votre responsabilité. Jacob est là. Son père est de l'autre côté. Sa famille est là. Ses biens sont de l'autre côté. Il est resté seul. Et en ce moment-là, Dieu est venu. Il dit, Jacob, on va parler maintenant. Jusqu'à présent, tu t'es entouré par des choses m'empêchant de te parler. Souvent, nous avons beaucoup de choses que nous entourons pour empêcher d'entendre la voix de Dieu. Mais Dieu va enlever ces choses-là une à une. Toutes ces sécurités-là, il les enlève. On perd un emploi, peut-être le mari s'en va, c'était l'occasion pour que Dieu nous parle. Peut-être les parents nous mettent à la porte, c'est à ce moment que Dieu va nous parler. Alors que Dieu ne voulait pas ça. Dieu aurait voulu parler à Jacob depuis qu'il a rencontré Jacob, il y a 13 ans en arrière, quand Jacob fuyait, Dieu l'a rencontré, lui a montré l'échelle. Mais Jacob a dit non, si tu me bénis, bénis-moi d'abord, après on verra, on reviendra. Dieu dit, ok, tu veux la bénédiction, je vais te donner la bénédiction. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Jacob aurait pu résoudre son problème là, quand il a rencontré Dieu, en fuyant. Il ne l'a pas fait. Il a dit, si tu me bénis, Seigneur, je sais que tu aimes l'argent. Je vais te donner la dîme de tous mes revenus. C'est ça que les gens pensent. Ils pensent que Dieu aime l'argent. Jacob a dit, bénis-moi seulement, je vais te donner la dîme de tous mes revenus. Dieu dit, ok, Dieu l'a béni, il avait la dîme maintenant. Mais la dîme sans vie, c'est inutile, il va mourir. Et la Bible dit quand il demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob avait une volonté ferme. C'était un homme dur, un homme qui est raisonneur, un homme qui ne se plie pas. Il ne se plie pas devant les autres. Il y a des chrétiens comme ça qui ont une forte volonté comme cela. Alors donc, il faut que Dieu les brise. C'est à vous de choisir où il vous brise, où vous allez à lui, où les mains, en disant « Seigneur, me voici. » Ah, c'est entre les deux. Vous choisissez. Où il vous brise, où vous allez, en levant les mains, je n'en peux plus. Et là, il va vous changer. C'est ça qui... Mais Jacob, c'était... Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange, qui est l'ange de l'Éternel, qui est Dieu manifesté, donc, dans cette chair-là. Et à un moment donné... L'homme dit, quand le soleil se levait, dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Vous voyez encore, il aime les bénédictions. Tout le temps, c'est la bénédiction. Même il veut être béni, il aime bénédiction. Béni, 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 béni. Mais l'homme lui dit, quel est ton nom? Tu veux être béni, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, écoute, bon, répète encore, Jacob. Ça veut dire quoi? Trompeur. Il dit, mais c'est un bon nom ça. Il dit, ça ne fait rien, bénis-moi seulement. Si tu bénis Jacob, je m'appellerai Jacob béni. Ça va améliorer mon nom un peu. Jacob béni, c'est bon. Dieu dit, non, on ne peut pas continuer comme on ne peut pas continuer. Dieu ne peut pas continuer avec vous en cherchant les bénédictions. Il veut s'arrêter ce soir-là, il veut arrêter. Il veut que vous rencontrez d'une façon spéciale. Il est fatigué de vous bénir. Comprenez? Il vous a béni. Il veut vous rencontrer ce soir. Et alors, en ce moment-là, Jacob dit, Dieu dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ça veut dire, tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc, le nom de Jacob a changé. Son nom a changé. Pour que ce nom-là ne devienne pas une gloire vaine, il a frappé la hanche de Jacob. Jacob a commencé à marcher en boitillant. Et la vie de Jacob, si vous lisez à partir de ce jour-là, sa vie est totalement changée. Et il a dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est ça l'expérience de la nouvelle naissance. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est ça. Je vais m'arrêter là ce soir. J'ai vu Dieu face à face. Et à cause de cela, mon âme a été sauvée. Il n'a pas dit j'ai rencontré le pasteur. Il n'a pas dit j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Deux jeunes hommes riches. Il n'a pas pu avoir la vie éternelle. Je ne sais pas s'il l'a eu après, sûrement. Saul de Tarse, lui, il l'a eu. Deux docteurs, Nicodème et Jésus. Plus tard, on voit Nicodème qui est venu s'occuper du corps de Jésus. Sûrement, il est dans le royaume.
On voit ici un jeune homme appelé Jacob, qui lui aussi a été transformé. Par qui? Toutes les transformations ont eu lieu par Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui transforme par son Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3:18. Baissons la tête ce soir. Baissons la tête, frères et sœurs. C'est Dieu seul qui transforme l'homme. Ne dis pas, moi je suis dans cette église il y a 10 ans, je suis dans notre église il y a 15 ans, ce n'est pas là le problème. Les disciples de Jésus ont dit, ceux qui étaient avec lui, Seigneur, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui peut avoir la vie éternelle? Qui peut avoir un cœur nouveau? Qui peut être changé? Qui peut être transformé? Alors ce soir, l'occasion nous est donnée. L'occasion nous est donnée pour que nous regardions attentivement notre vie. Paul a dit aux Corinthiens, vous étiez avant adultères, vous étiez efféminés, vous étiez impudiques, vous étiez voleurs, cupides. Mais maintenant, quand vous avez rencontré Christ, vous avez été sanctifiés, vous avez été lavés, purifiés et par le Saint-Esprit. Quelle est l'expérience que tu as vécue? Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Quelle est l'expérience de la nouvelle naissance que mon frère, tu as expérimenté? Quelle est cette expérience et où? De même que tu as un acte de naissance naturel. Tu es né dans tel village de la France, tel jour, telle heure. On connaît le nom de ton père et ta mère. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'acte de naissance naturel. De même que cette naissance naturelle est tellement précise, alors ta naissance spirituelle est précise. Tu ne peux pas dire, tu ne sais pas quand est-ce que tu es né, comment tu es né, non. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas né en France, tu connais où tu es né, quel jour tu es né, quelle année, quel mois, dans quel village. Ça c'est la naissance naturelle. La naissance spirituelle aussi est pareille. Alors si vous êtes parmi nous ce soir, vous êtes venu ici, on vous a invité pour venir écouter l'évangile, et que vous n'avez pas encore expérimenté cette nouvelle naissance. Je ne te parle pas de conversion. Je ne demande pas de changer de religion. Mais je dis, la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, dans une femme. C'est un cœur nouveau que Dieu donne, un esprit nouveau qu'il met en lui. Il enlève son cœur de chair, il donne un esprit, un cœur de chair, il a un cœur de pierre, il donne un cœur nouveau, et met en lui son esprit. Si vous êtes parmi nous ce soir, bien que vous soyez né dans une famille chrétienne, et vous venez au culte, mais vous n'avez pas encore pris cette décision, comme Jacob, pour voir Dieu face à face, ce Dieu est parmi nous ce soir. C'est lui qui m'a dit de prêcher, et quand il a dit de prêcher, c'est qu'il est prêt à faire naître des gens de nouveau. Alors, si vous êtes parmi nous ce soir, et que vous n'avez pas eu cette expérience réelle, je ne parle pas de conversion, si tu veux que ce soir, rencontrer Dieu, tu peux le rencontrer par sa parole simplement et par la prière que nous allons faire ensemble. Elle peut sembler être simple, mais c'est une décision. Mais si tu dis, oui, moi je viens à l'église, mes parents sont chrétiens à longtemps. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, je connais tout cela. Alors mon ami, c'est une décision personnelle. On ne peut pas t'empêcher ni t'obliger. Et si vous êtes parmi nous ce soir, vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. C'est le premier groupe pour lequel on va prier ce soir. On va prier plusieurs prières, mais ce soir, le premier groupe de prières, ce sont ceux qui, réellement, savent avec certitude maintenant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, qui savent, qui oui, ils ont été touchés, ils ont été bénis. Jacob était béni, Jacob a même vu Dieu, Jacob a vu l'échelle de Dieu, mais il n'était pas encore transformé par Dieu. Il a rencontré Dieu face à face, il a été changé. Vous tenez debout là, vous êtes simplement, ne regardez pas les autres, ce n'est pas le temps de regarder la face de quelqu'un. C'est une affaire personnelle, mon ami. C'est une affaire personnelle entre vous et Dieu. Vous tenez debout. Même s'il y a une seule personne ici ce soir, c'est très important pour qu'il puisse savoir que Dieu veut changer sa vie. Dieu veut le faire naître. S'il passe par la repentance, il va aller donc dans la nouvelle naissance.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.